invite à pratiquer une forte solidarité. Une solidarité profonde. Est-ce que nous la vivons vraiment? Sommes-nous sensibles aux autres au point de voir quand ça ne va pas? Avons-nous des relations suffisamment profondes pour que les autres aient vraiment confiance en nous? Donnons-nous vraiment notre aide quand il y a un besoin? Si nous avons donné notre aide, nous sommes-nous arrêtés juste au premier niveau, sans aller jusqu'au bout pour que l'autre s'en sorte? Dieu veut que tout individu vive à fond la solidarité. Cette solidarité doit être vécue dans notre famille, notre voisinage, le travail, partout quoi. Mais les personnes qui doivent étonner par leur forte générosité, leur forte solidarité, ce sont les chrétiens. Vous l'aurez compris ce matin, je vais parler donc dans ce message de solidarité. Comment vivre, la question est posée, comment vivre une solidarité qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi, de nous? Nous continuons notre série de messages sur le livre des Actes et nous sommes maintenant à la fin du chapitre 4. L'un des fruits forts des débuts de l'Église est la solidarité. Alors regardons ensemble cette solidarité dans Actes chapitre 4 et je vais lire juste les versets 32 à 37. Je vous laisse le temps pour trouver le texte dans vos bibles, vos smartphones, vos tablettes. Il y a d'autres choses encore. Acte 4. Acte 4, versets 32 à 37. Je lis. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait prioritaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en nous tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissait alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Waouh ! C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Certainement par son geste, n'est-ce pas ? Parce que vous allez voir, il vendait son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Point final. Enfin, il y a encore un chapitre par la suite. Nous verrons la suite après. Comment vivre la solidarité, une solidarité qui plaît à Dieu? Premièrement, être rempli d'esprit. Réponse facile dans un texte pareil. Puisque quand nous faisons un retour en arrière, il y a beaucoup de choses dans ce livre, les Actes. Dans Acte 1, donc chapitre 1, Luc, l'auteur nous dit que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, est monté au ciel. Il n'a pas pris l'ascenseur. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Jésus qui monte tout seul comme ça. Il a dit à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils allaient recevoir la vie de Dieu en eux pour vivre dans un amour intense pour Dieu et pour les autres. Bien plus, cette vie en eux, et c'est ce que le texte nous donne dans le chapitre 1, verset 8, leur donnera, en fait, ils recevront une puissance, le Saint-Esprit, afin d'être des témoins. Donc ils vont recevoir l'assurance et le Saint-Esprit les rendra efficaces pour témoigner de Jésus-Christ. Les disciples ont attendu le Saint-Esprit, ils ne se sont pas tournés les pouces, hein. mais étaient dans la prière. Dans la prière. Un beau exemple. Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Il est descendu sur les apôtres et sur environ 120 disciples. Moment très fort. Il nous dit que c'était comme des langues semblables à des langues de feu. Enfin, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Ils se sont mis à dire des merveilles de Dieu dans plusieurs langues. Des Juifs pieux venus de toutes les nations ont été étonnés d'entendre des disciples parler dans leur langue maternelle. Et Pierre, qui avait renié Jésus-Christ, avant sa mort, se met à proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec une assurance remarquable. Plusieurs vont être étonnés de son assurance. Il est dit 3000 personnes vont s'ajouter au nombre des croyants. On veut ça tout le temps, n'est-ce pas? Non? Bon, il faudrait changer de bâtiment. Ensuite, l'Esprit de Dieu agissait librement et puissamment. Il y avait des miracles, des guérisons, une forte unité et solidarité de l'Église. Il y avait un engagement fort des croyants, car ils étaient tous fidèles dans l'écoute de l'enseignement des apôtres. Ils vivaient comme des frères et sœurs. Ils se retrouvaient chaque jour dans la cour du temple. Ils mangeaient ensemble. Ils prenaient le repas de Jésus-Christ, que Jésus-Christ avait institué ensemble. Ils priaient et louaient Dieu ensemble. Tout cela était des manifestations du Saint-Esprit qui étaient descendues lors de la Pentecôte. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec force ce matin que notre unité et notre solidarité ne pourront se vivre que par l'action du Saint-Esprit. Vous êtes là ? Par nature, nous sommes trop orgueilleux, trop égoïstes. L'amour de l'argent peut facilement saisir nos cœurs et nous pousser à garder ce que nous avons quand celui qui est à côté de nous est dans le besoin. Nous avons besoin que Dieu accomplisse un miracle en nous pour que nous puissions vivre dans un amour intense les uns pour les autres. Au point d'être prêt à donner de notre temps, de notre écoute, de notre argent, dans notre vie. Je dis tous les dimanches que l'Église de Soir, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous voulons prier, plutôt aimer et partager. Prier, grandir dans notre relation avec Dieu, aimer, donc grandir dans l'amour les uns pour les autres, parce que Dieu a fait une famille, et partager, c'est témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais revenons à aimer. Si nous pensons que nous pouvons nous aimer les uns les autres, comme Dieu le veut, juste en faisant des efforts, nous n'avons rien compris. Nous avons besoin de l'action surnaturelle du Saint-Esprit, sinon c'est impossible. Alors veillons à être constamment remplis du Saint-Esprit pour vivre comme Dieu le veut. Prions sans cesse pour que Dieu nous remplisse de son esprit et agisse en nous. Il y a tellement de choses à changer en moi. Pas vous ? Pas chez vous ? Dieu doit agir en nous. Comment vivre une solidarité qui plaît à Dieu ? Être rempli de l'esprit, mais aussi s'engager à vivre une parfaite unité de cœur et d'esprit. Fort ! Ce serait grave de penser que le Saint-Esprit fait tout, hein, tout seul, sans notre participation. Dans Acte 2, verset 42, il dit que les croyants persévéraient dans la communion fraternelle. Dans Acte 4, verset 32, il dit ceci aussi, « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Donc, chacun s'engageait envers Dieu, mais aussi envers l'Église. Les deux sont inséparables. On ne peut pas dire « je me suis engagé envers Dieu » et puis on ne s'engage jamais envers l'Église. Si on ne s'engage jamais envers l'Église, envers quel Dieu nous nous sommes engagés en fait ? Parce que Dieu Le projet de Dieu, ce que Dieu avait à cœur, c'est de bâtir son Église par Jésus-Christ. Donc s'il veut bâtir son Église et que nous, on n'est jamais engagé dans l'Église, il y a un problème, n'est-ce pas? Pour vivre comme des frères et sœurs, unis les uns aux autres, il faut non seulement l'action de Dieu par son Esprit en nous, mais aussi notre engagement à vivre à fond cette unité. Il est très difficile, voire impossible, de vivre pleinement la communion fraternelle, un amour intense des uns envers les autres, au point de vivre l'entraide et une profonde solidarité si nous passons d'une église à une autre, sans jamais nous engager envers une église locale. Quand j'ai dit église locale, c'est l'église d'Ozoir, l'église de Porto, l'église de Lannion, etc. Il y a plusieurs églises qui sont localisées. On vit vraiment dans un temps où le mot engagement perd toute sa valeur, n'est-ce pas? L'engagement du mariage n'est jamais vraiment tenu. Ou alors, les gens préfèrent ne pas se marier. Comme ça, on n'en parle pas, hein, on est plus tranquille. J'ai souvent entendu, et j'ai moi-même vécu, la chose suivante. Quand des gens s'engagent dans une formation, il y a du monde, mais il est rare d'avoir le même nombre de personnes à la fin de l'année ou qui continuent les années suivantes. Parfois, c'est terrible, hein, vous voyez un monde fou, puis on se retrouve à 3-4 à la fin. On observe aussi cela dans l'Église, qu'il y a un problème d'engagement. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne viennent qu'à Pâques et à Noël. D'autres viennent un peu plus que cela, mais à peine. Mes amis, vous voulez savoir si vous êtes remplis du Saint-Esprit? Vous voulez savoir si l'Esprit de Dieu habite en vous et agit pleinement? Alors écoutez ce que la Bible nous dit. Je le répète, il persévérait dans la communion fraternelle. Ça, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Les amens sont petits. Quand le Saint-Esprit est en nous et agit librement en nous, nous recevons un amour intense pour nos frères et sœurs. Si je ne passe pas de temps avec mes frères et sœurs, arrive un moment où il y a un manque. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi et me pousse à aimer mes frères et sœurs. Je pense à eux, je les aime. Dieu met en nous un désir fort d'être en commun, en relation avec notre famille spirituelle. Si le Saint-Esprit se manifeste pleinement en nous, nous aurons un désir toujours plus fort de passer du temps avec nos frères et sœurs chrétiens, de vivre des relations profondes et vraies, de nous inviter les uns les autres, de manger ensemble, de travailler ensemble, de nous soutenir ensemble, de partager nos vies ensemble. Ça, ce n'est rien d'autre qu'une vie d'église remplie du Saint-Esprit, mes amis. Si vous êtes vraiment engagé envers votre église, c'est que très certainement l'Esprit de Dieu agit en vous. Si vous ne l'êtes pas, posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? Si le Saint-Esprit nous pousse ainsi à nous aimer les uns les autres, nous devons nous engager envers une église locale, envers des frères et sœurs, nous engager dans un groupe de maison. Vous savez ce que c'est un groupe de maison, hein? À temps où nous sommes peu, mais où nous pouvons vivre l'encouragement mutuel, vivre un amour toujours plus intense, car en étant une centaine de personnes le dimanche, c'est pas ici que nous pouvons vivre des relations très profondes, n'est-ce pas? On dit bonjour à la tête, puis on dit déjà bonjour à l'autre, puis déjà bonjour à l'autre. Et quand de se saluer vraiment et d'arriver à des relations fortes, c'est pas possible. J'espère qu'on va au-delà du dimanche, et j'espère aussi qu'on va au-delà d'un groupe de maison. Nous devons nous engager dans des relations intense, vivre à fond la communion fraternelle profonde que Dieu veut que nous vivions. Comment vivre une solidarité qui plaît à Dieu? Être rempli d'esprit, s'engager à vivre une parfaite unité du cœur et de l'esprit. Et troisièmement, s'entraider. Dans Actes donc 4, 32, j'ai déjà répété plusieurs fois, personne ne serait prétendu propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Waouh, quelle phrase! C'est très fort ce que les croyants vivaient ici. L'action du Saint-Esprit a non seulement poussé les croyants à s'aimer, à passer du temps ensemble, mais aussi à s'entraider, à pratiquer la solidarité. Et pas une petite solidarité. S'il y a bien une chose dont les croyants n'aiment pas trop parler, et même les non-croyants, c'est de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Les gens peuvent être très admiratifs quand ils voient d'autres personnes généreuses. Waouh ! Quelle générosité ! Magnifico ! Mais manifester la générosité au quotidien, ça c'est autre chose. Ce n'est pas chose facile. Pour beaucoup. On est plus dans la tentation de la soif de posséder toujours plus. Et combien moi je vois mon propre cœur, et même en préparant ce message, ce texte m'a attristé de voir mon propre cœur. Combien on est dans cette soif de posséder toujours plus. Pourtant, l'œuvre de l'Esprit de Dieu a poussé les croyants à vivre une forte solidarité et générosité. Leur argent, ce n'était pas leur argent. Vous voyez ce que le texte disait tout à l'heure. Je recite, « Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. » Et si vous lisez bien Actes, et bien vous remarquerez que c'est naturellement que cela s'est imposé aux croyants. Ce n'est pas les disciples ou les apôtres qui ont dit « Il faut faire comme ça !» Même si, d'une certaine manière, à l'époque de l'Église primitive, il était courant de distribuer chaque jour une somme d'argent aux veuves nécessiteuses de l'Église qui ne disposaient d'aucun autre moyen de subsistance. Là, on parle de quelque chose qui était plus comme par exemple, j'en parlerai tout à l'heure, le paroliacte, où on a une collecte de solidarité, donc c'est quelque chose qui est vécu par l'Église, mais pas forcément qu'en son sein, les gens cherchent à mettre la main au portefeuille pour aider le voisin, celui qui est à droite, celui qui est à gauche, etc. Solidarité, générosité, le besoin de partage de biens et d'argent était très fort. Parce que aussi, dans cette période, il y avait des pauvres. Voilà. Forte pauvreté. Mais quel rêve d'imaginer l'Église de Dieu, les gens que nous connaissons, que ce soit ici, que ce soit aussi au loin, ne manquer de rien. Arriver à cet objectif, ne manquer de rien. Encore aujourd'hui, l'Église de par le monde, il y a des personnes qui ne mangent pas comme nous mangeons. Même des enfants qui vont à l'école avec le ventre vide. Que faisons-nous de nos sous, de notre argent? Le contexte nous montre combien cela a été important de vivre la solidarité, puisque beaucoup de pauvreté. Mais ce texte nous parle quand même. Et dans l'église le soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pratiquons cette solidarité par cette collecte de solidarité que nous avons de temps en temps, et elle nous permet d'aider ceux qui sont dans le besoin. Sachez donc que si vous vous trouvez dans le besoin, nous avons un fonds pour vous aider. Il vous suffit de contacter Christian, Rosemary, Roger qui sont là. Rosemary est là, Christian. Et plusieurs ont pu bénéficier de cette aide. Plusieurs. Il est important de rappeler que les personnes que nous aidons restent anonymes. Par respect pour chacun. Au-delà de nos pratiques d'église, nous devons aussi pratiquer la solidarité dans les relations directes avec les personnes quand nous entendons un besoin. Pas juste dire « il n'y a pas rien ». Parfois, c'est à nous d'aller vers les personnes et aussi de pratiquer cette solidarité. À écouter le texte du livre des Actes, on pourrait penser que la solidarité n'était vécue que par le partage des biens et de l'argent. Mais en fait, c'est bien plus fort que cela. Si vous prenez tout le... un peu, voilà, on tient tous ces chapitres jusqu'au chapitre 4, du chapitre 1 au chapitre 4, en tout cas plutôt fin du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, vous arrivez à la conclusion qu'en fait, ils partageaient leur vie. Ils partageaient leur vie. Plus nos relations sont profondes, plus nous pouvons nous encourager et nous entraider. J'aime beaucoup ce que le pasteur Francis Chan a écrit au sujet de l'entraide que nous devrions vivre dans l'Église. Et je vais donc citer une partie du livre « Multipliez-vous », un livre que j'apprécie. Alors je cite « Ne nous contentons pas d'une aide de surface. Soyons clairs, que signifie aider les gens que Dieu a placés dans notre vie ? Nous aimons tous des solutions rapides et faciles, mais comment pouvons-nous réellement aider les autres ? Nous nous contentons souvent d'opérer en surface, sans jamais attaquer le cœur du problème. Si quelqu'un est en deuil, je lui prête un bon livre qui m'a aidé dans un moment difficile. Mais qui d'entre nous prendrait le temps de réellement s'investir dans la vie de cette personne ? Combien d'entre nous prennent le temps d'écouter régulièrement et d'offrir leur aide chaque fois qu'ils discernent un besoin qu'ils peuvent combler ? Quand nous apprenons qu'une amie lutte avec un péché, nous nous empressons de l'avertir des dangers liés à ce péché et lui promettons de prier pour elle. Je vais prier pour toi, que nous le fassions ou pas d'ailleurs. Mais combien prendrait son combat suffisamment au sérieux pour l'accompagner dans cette lutte ? Ce n'est pas que les chrétiens sont indifférents. Bien souvent, nous voulons vraiment aider. Mais nous sommes tellement omnibulés par l'idée de trouver une solution pour corriger rapidement le comportement extérieur que nous passons à côté du vrai problème. Fin de citation. Mes amis, apprenons à partager nos vies. Construisons de fortes amitiés avec quelques personnes pour pouvoir encourager davantage et aussi vivre l'entraide. Que Dieu nous aide à ne pas juste aimer en parole, mais en acte. Comment vivre une solidarité qui plaît à Dieu ? Le troisième, c'était s'entraider. Et le dernier point maintenant, c'est fuir l'hypocrisie. Au début du livre des Actes, il y a une manifestation forte de l'Esprit de Dieu, un grand réveil, des miracles, des milliers de personnes qui mettent leur foi en Jésus-Christ et qui s'ajoutent à l'Église. Mais, dans cette période de grand réveil, dans un début aussi fort de l'Église, dans un temps où tout semble parfait, Satan attaque. La première attaque de Satan dont nous avons parlé dimanche dernier est extérieure. Pierre et Jean, disciples de Jésus-Christ, qui avaient guéri un paralytique par la puissance du Saint-Esprit, sont arrêtés, emprisonnés. On leur défend d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Puis ils sont relâchés. Première attaque. Deuxième attaque de Satan, celle-ci n'est pas extérieure, mais se vit à l'intérieur. Elle a lieu à l'intérieur de l'Église et est bien plus subtile. Je vous invite à lire la suite. Acte 5, versets 1 à 11. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Ça, c'est clair. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»«
Oui, »
répondit-elle, « c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ?»« Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée au pied de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Ce texte est choquant, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Regardons Ananias et Saphira, ils ont vendu leur champ, ils ont donné une partie de cet argent aux apôtres pour les pauvres. Jusqu'ici, tout va bien, puisqu'ils étaient libres de donner comme ils le souhaitaient. Mais ce qui est grave, c'est d'avoir fait croire aux apôtres qu'ils avaient donné tout l'argent de leurs biens. Ce qui est totalement faux. Les péchés présents dans leur cœur sont l'hypocrisie, la malhonnêteté, le mensonge, la soif de posséder, l'amour de l'argent, l'orgueil, la convoitise. Il est dit qu'ils ont laissé Satan envahir leur cœur. En tout cas pour Ananias, on peut le penser aussi pour Saphira. Ils n'étaient pas dans un désir d'aider les pauvres, ou peut-être un petit peu, mais dans un désir surtout de satisfaction de leur ego. Ils veulent se faire passer pour des personnes extrêmement généreuses, avoir une haute réputation devant tous. Voilà pourquoi ils décident délibérément de tromper Dieu et son Église. C'est délibéré, c'est volontaire. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait juste quelques minutes avant. On voit bien que ça a pris un peu de temps pour réfléchir, de réflexion pour cela. Pour eux, personne ne s'en rendra compte, même pas Dieu. Mais pourquoi Dieu agit-il d'une manière aussi forte en les faisant mourir sur le champ? Parce que si ça se passait tout le temps comme ça, il y aurait plein de pharisiens devant Jésus. Il y aurait pas mal de pharisiens par terre. Voyons bien que dans la Bible, Dieu n'agit pas ainsi avec tous les hypocrites, hein. Alors pourquoi Dieu agit-il ainsi à ce moment précis? Alors, à relever, à voir un peu ce que disent les commentateurs sur le sujet, plusieurs sont venus pour dire que c'est parce que c'était dans les débuts de l'Église. Nous sommes dans les débuts de l'Église. C'est un commencement fort. Et c'est un moment où Dieu veut marquer les consciences, marquer les esprits. Il veut montrer avec force qu'il est contre l'hypocrisie de son Église. Dieu veut donner un fort avertissement à toute l'Église. Les chrétiens faux vont finir de cette façon tôt ou tard. C'était présent ici très fort tout de suite sur le champ, et pour d'autres ce sera plus tard. Dieu est contre l'hypocrisie. Dieu ici rappelle avec force à son Église à quel point il a en horreur l'hypocrisie. Et je l'ai déjà répété plusieurs fois parce que c'est le troisième dimanche en peu de temps que je parle d'hypocrisie. Si pour ceux qui se rappellent des anciens messages. Ce n'est pas tout de voir des manifestations du Saint-Esprit, de vivre des fortes, des choses fortes dans l'Église. Waouh ! Il y a des gens qui vont de spectacle en spectacle. Ah, il y a plein de manifestations, c'est extraordinaire, génial, j'y vais. Ce n'est pas tout de vivre des choses fortes dans l'Église. Nous devons aussi vivre dans l'obéissance à Dieu, dans la sainteté, le respect de sa personne. On ne peut pas prendre Dieu à la légère. Dieu n'est pas n'importe qui. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous aime. Mais il voit aussi le péché. C'est un Dieu saint. Il veut nous transformer pour vivre dans la sainteté. Dieu prend vraiment au sérieux le péché de son Église. Il prend au sérieux ton péché. Il veut que son Église soit pure. Et c'est justement pour ça que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est un fort avertissement pour les débuts de l'Église, mais c'est aussi un fort avertissement pour nous. Voici ce que cet événement a produit au verset 11, on l'a entendu deux fois. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Ce texte doit aussi nous inspirer une grande crainte, un profond respect de Dieu. Alors ce matin, reconnaissons que nous aussi, il peut nous arriver d'être hypocrites. Si je demandais qui a déjà été hypocrite et qu'on devait lever la main, ceux qui garderaient leur main baissée sont hypocrites. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a une tendance de notre cœur, mauvais, qui a besoin de changer. Et même quand Christ a transformé nos vies, il y a encore du travail en nous. Et ça nous arrive encore de chanter des chants le dimanche matin. Et pourtant, d'avoir le cœur qui est carrément à côté de ce qu'on est en train de vraiment dire et chanter. Demandons pardon à Dieu ce matin. C'est devant toutes les fois où nous avons été hypocrites. Et fuyons de toutes nos forces l'hypocrisie. Je vais conclure. Très simplement, comment vivre une solidarité qui plaît à Dieu, être rempli de l'esprit, s'engager à vivre une parfaite unité de cœur et d'esprit. Peut-être que pour toi, c'est s'engager envers l'Église et donc venir plus régulièrement ici. Peut-être pour toi, c'est s'engager dans un groupe de maison. Peut-être pour toi, c'est vivre une amitié plus profonde avec certains croyants ici. Peut-être pour toi, c'est devenir membre de l'Église. S'engager. Troisièmement, s'entraider. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre que tu sais qui a besoin d'aide, mais pourtant tu as souvent fermé ta porte parce que cette personne peut-être t'agace, t'embête. Et pourtant Dieu veut qu'on s'entraide. Quelle que soit la personne qui est en face de nous, Dieu veut qu'on ait un amour sans condition. Et enfin, fuir l'hypocrisie. Comme je l'ai dit, si nous savons que nous avons encore des attitudes hypocrites, demandons pardon à Dieu. Je vais prier. Dieu notre Père, merci infiniment pour ta parole. Merci infiniment car par Jésus-Christ, tu bâtis ton Église. Tu fais des croyants une famille. Tu nous as donné ton esprit pour vivre une communion fraternelle intense. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas laisser ton esprit nous remplir. Pardon pour toutes les fois où nous avons vécu dans l'hypocrisie. Pardon pour toutes les fois où nous avons vu un frère ou une sœur dans le besoin sans lui avoir apporté l'aide ou une aide superficielle, rapide. Nous te demandons encore aujourd'hui, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que notre engagement pour toi soit aussi un engagement envers ton Église. Aide-nous à vivre dans un amour intense les uns pour les autres, au point d'être prêts à donner de notre temps, de notre écoute, de notre énergie, de notre argent, de notre vie. Et Seigneur, continue ton œuvre dans ton Église à Osoir pour que ton projet de faire de nous une famille qui s'aime intensément, que ce projet se réalise toujours plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.